Quand il alla ouvrir la porte pour informer son chambellan qu'il supprimait la chasse de ce jour, 20 têtes accolées reculèrent ensemble. Jeanne la Boiteuse était détestée des serviteurs qu'elle harcelait d'exigences, qu'elle dénonçait pour le moindre manquement et qu'il appelait entre eux la mâle reine. Le récit de la correction qu'elle venait de recevoir allait emplir de joie le palais. Vers la fin de la matinée, dans le verger de Saint-Germain où la gelée fondait, Philippe et Robert se promenaient ensemble à pas lents. Le roi avait la tête basse. « N'est-ce pas chose affreuse, Robert, que d'avoir à se défier de sa propre épouse, et même quand on dort ? Que puis-je faire ? Mettre mon seau sous mon oreiller ? Elle y glissera la main, j'ai le sommeil lourd. Je ne puis quand même pas l'enfermer au couvent, c'est ma femme ! Ne plus la laisser dormir auprès de moi, c'est tout ce que je puis. Le pis est que je l'aime, cette drôlesse. Ne va point le redire, mais j'ai, comme tout chacun, tâté de quelque autre au déduit. J'en suis revenu avec plus de goût pour elle. Mais si jamais elle recommence, je la battrai encore. » À ce moment, Trouillard d'Usage, vidame du Mans et chevalier de l'hôtel, s'avança dans l'allée pour annoncer le prévôt de Paris qui le suivait. Rond de bedaine et roulant sur de courtes pattes, Jean de Milan n'avait pas la mine gaie. « Alors, messire prévôt, vous avez fait relâcher cette dame ?»«
Non, sire, » répondit le prévôt d'une voix gênée.
« Quoi, mon ordre était-il faux ? Peut-être n'avez-vous pas reconnu mon sceau ?»«
Non point, sire, mais avant de l'exécuter, je voulais vous en entretenir et suis bien aise aussi de trouver monseigneur d'Artois avec vous, » dit Jean de Milan en regardant Robert d'un air gêné. « Cette dame a confessé. »«
Qu'a-t-elle confessé ?» demanda Robert.
« Toutes sortes de vilenies, monseigneur. Fausse écriture, pièces contrefaites et d'autres choses encore. »
Robert garda très bon contrôle de soi, feignit même de prendre la chose pour plaisanterie et s'écria en haussant les épaules. « Certes, si l'on a passé à la question, elle a dû confesser beaucoup. Que je vous livre au tourmenteur, messire de Milan, et je gâche que vous confesserez m'avoir voulu sodomiser.
« Hélas, monseigneur, dit le prévôt, la dame a parlé avant la question. Par peur, simplement par peur d'être questionnée, elle a donné longue liste de complices. »
Philippe VI, silencieux, observait son beau-frère. Un nouveau travail se faisait dans sa tête. Robert sentit un piège se refermer sur lui. Un roi qui vient de rouer de coups son épouse et devant témoin pour usurpation de sceaux et fausses lettres, peut difficilement relâcher, même pour complaire à son plus intime parent, une ordinaire sujette qui vient d'avouer d'identiques méfaits.
« Ton conseil, mon frère ?» demanda Philippe à Robert sans le quitter du regard.
Robert comprit que son salut dépendait de sa réponse. Il fallait jouer la loyauté. Tant pis pour la déviant. Tout ce qu'elle avait pu ou pourrait déclarer le concernant serait tenu par lui pour mensonge et honté.
« Votre justice, sire mon frère, votre justice !» déclara-t-il. « Maintenez cette femme en cachot, et si elle m'a trompé, sachez bien que je réclamerai de vous la plus grande rigueur !»
En même temps, il se disait « Mais qui donc a prévenu le duc de Bourgogne ?» Et puis, la réponse, l'évidente réponse, lui vint aussitôt. Il n'existait qu'une seule personne qui eût pu dire au duc de Bourgogne ou à la mâle reine elle-même que la Divion se trouvait à Conches. Béatrice. Ce fut seulement vers la fin mars, quand la Seine, gonflée par les crues de printemps, inondait les rives et entrait dans les caves, que des mariniers repêchèrent du côté de Chatou un sac flottant entre deux eaux, contenant un corps de femme complètement nu. Toute la population du village, pataugeant dans la boue, s'était assemblée autour de la macabre trouvaille, et les mères giflaient leurs gamins en criant « Allons, fuyez-vous autres ! Ce n'est pas pour vous, ces choses-là » Le cadavre était hideusement gonflé, avec l'horrible teinte verdâtre d'une décomposition déjà avancée. Il avait dû séjourner plus d'un mois dans le fleuve. On pouvait pourtant reconnaître que la morte était jeune, ses longs cheveux noirs semblaient bouger parce que des bulles y crevaient. Le visage avait été lacéré, talonné, écrasé pour qu'on ne pût l'identifier, et le cou portait la trace d'un lacet. Les mariniers, partagés entre le dégoût et une attirance obscène, poussaient du bout de leur gaffe l'impudique charogne. Soudain le corps, rendant l'eau qui le gonflait, se mit à remuer de lui-même, donnant un instant l'illusion de ressusciter, et les commères s'écartèrent en hurlant. Le bailli, qu'on avait averti, arriva, posa quelques questions, tourna autour de la morte, inspecta les objets sortis du sac avec le cadavre et qui s'égouttaient sur l'herbe, une corne de bouc, une figurine de cire enveloppée de chiffon et piquée d'épingle, un grossier ciboire d'étain gravé de signes sataniques.
« C'est une sorcière, oxyse par ses compagnons après quelques sabbats ou messes noires !»
déclara le bailli. Les commères signèrent. Le bailli désigna une corvée pour aller enfouir au plus vite le corps et les vilains objets dans un boqueteau, à l'écart du village et sans une prière. Un crime bien fait, en somme, bien maquillé, où Gilles Edenel avait suivi les bonnes leçons de Lormel au Daulois et qui s'achevait comme l'avaient souhaité les meurtriers. Robert d'Artois était vengé de la trahison de Béatrice, ce qui ne signifiait pas qu'il fût pour autant triomphant. Dans deux générations, les villageois de Chatou ne sauraient plus pourquoi on avait appelé un bouquet d'arbres, en aval, le bois de la sorcière.